Le journal, présenté par Alexandra Duboucheron.
Bonjour à toutes et à tous. Abruti, menteur, pourri scellé, les insultes de Jean-Luc Mélenchon à l'égard des journalistes de Radio France ne passent pas. Le groupe dont fait partie France Culture va porter plainte. On entendra Guy Lagache dans ce journal, c'est le directeur délégué aux antennes et à la stratégie éditoriale. Elles ne veulent plus être sous-traitantes, mais bien traitées. Elles, ce sont des femmes de chambre dans les beaux quartiers de Paris, dans un palace même. Depuis 3 semaines, elles tiennent le piquet de grève. Dans ce journal aussi, l'Afghanistan prolonge les élections législatives. Plusieurs bureaux de vote ont ouvert ce matin au lendemain d'une journée de chaos et de violence. Et puis, 10 ans après la mort de Sœur Emmanuelle, la petite sœur des pauvres, son souvenir est toujours présent dans les bidonvilles du Caire et son combat continue. Reportage à suivre. La tension est montée d'un cran. Il a suffi de quelques Facebook Live et de billets sur les réseaux sociaux pour que Jean-Luc Mélenchon dérape et s'en prenne aux journalistes de Radio France, qualifiés d'abrutis et de menteurs. Le dirigeant de la France Insoumise a également appelé à les harceler, à les pourrir. En cause, une enquête publiée en fin de semaine par la cellule investigation du groupe de Radio Publique, dont fait partie Radio France Culture, et qui portait sur des soupçons de surfacturation de sa dernière campagne présidentielle. Dans ses propos, Jean-Luc Mélenchon cible nos confrères de France Info. Radio France a annoncé hier le dépôt d'une plainte contre l'ancien candidat. Guy Lagache est le directeur délégué aux antennes et à la stratégie éditoriale, le numéro 2 du groupe.
Nous allons effectivement porter plainte et le service juridique de Radio France est en train d'y travailler actuellement parce que les insultes et les attaques de Jean-Luc Mélenchon contre les journalistes de France Info sont évidemment insupportables, sans fondement, irresponsable. Et finalement, en s'attaquant aux journalistes de France Info, Jean-Luc Mélenchon s'attaque également à tous les journalistes de Radio France. Et pour une raison simple, la cellule investigation de Radio France alimente toutes les antennes de Radio France. En traitant d'abrutis, de menteurs, de tricheurs, les journalistes de France Info, ils traitent d'abrutis, de menteurs, de tricheurs, tous les journalistes de Radio France. Et ça, c'est insupportable. Nous faisons notre travail avec rigueur, professionnalisme et impartialité. Et c'est exactement dans cet esprit-là que la cellule investigation de Radio France a travaillé, mené l'enquête pendant des mois sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de porter plainte face à un leader politique qui, en plus, appelle ses adhérents à pourrir les journalistes de Radio France.
Guy Lagache, le directeur délégué aux antennes et à la stratégie éditoriale de Radio France avec Franck Veil-Rabot. 3 proches du djihadiste Radouane Lakhdim ont été mis en examen et incarcérés. Ils sont soupçonnés d'avoir apporté leur aide à l'auteur des attentats de Trèbes et de Carcassonne. Attentats qui ont coûté la vie à 4 personnes le 23 mars dernier. Cela fait près d'un mois maintenant que des petites mains d'un palace parisien sont en grève. Des femmes de chambre et des techniciens qui travaillent au parc Hayat Paris-Vendôme dans le 2e arrondissement. Clotilde Ravel les a rencontrés hier pour France Culture.
Un concert de casseroles et des chants devant des touristes et des passants médusés, peu habitués à un tel spectacle dans ce quartier. Parmi les grévistes Nora, elle ne souhaite pas indiquer son nom de famille. Gouvernante et employée par la société prestataire de nettoyage STN, elle demande son intégration et celle de ses collègues.
On a ras-le-bol parce qu'en plusieurs années, à chaque fois il y a un prestataire qui change. À chaque fois il faut se battre pour dire oui mais il faut maintenir nos acquis qu'on a signés avec l'autre prestataire. Notre métier, c'est quand même le cœur du métier. Pour rendre une chambre, c'est pas aussi simple que ça. Et surtout, encore plus dans un palace, parce qu'ils sont tellement minutieux, les clients payent assez cher. Hein, la moyenne des chambres est de 1 000 euros. Ça peut atteindre jusqu'à 16 000 euros.
Pourquoi externaliser ce service d'excellence, demande Nora, qui fait front commun avec les salariés internalisés. Eux demandent une hausse de leur salaire de 3 euros par heure. Sam et Hamouda est technicien de maintenance au parc Hayat Paris-Vendôme depuis 2014.
Aujourd'hui, on est payé aussi SMIC hôtelier. Donc le SMIC hôtelier, c'est 39 heures travaillées par semaine, un horaire entre 8, une semaine du matin, une semaine de soir, une semaine de nuit, jamais de repos samedi dimanche, pour 1500 euros net, qui est le SMIC hôtelier. Ça fait, pour 35 heures, ça fait 1200. Quoi.
Pour l'instant, les dirigeants du parc Hayat n'ont pas donné suite aux demandes de négociation. Ce serait la moindre des choses, plaide pourtant Samé Hamouda.
Le but, c'est pas de foutre le bordel, le but, c'est de trouver une solution le plus rapidement possible, pour le bien de tous.
Et le jeune homme de rappeler que malgré les levées de fonds organisées pour les soutenir, les grévistes perdront au moins 40% de leur salaire ce mois-ci.
Un reportage de Claudine Ravel pour France Culture. L'association SOS Homophobie appelle à un rassemblement cet après-midi à Paris, place de la République. Elle dénonce la hausse des agressions contre les personnes LGBT, plus 15% sur un an dans la capitale, et elle réclame des actions concrètes. Deuxième acte pour les élections législatives en Afghanistan. La commission électorale indépendante a décidé d'ouvrir 400 bureaux de vote. Aujourd'hui, selon elle, seuls 3 millions d'électeurs sur 9 millions d'inscrits ont pu voter hier en cause des violences et des attaques à l'appel des talibans notamment, et qui ont fait 36 morts, mais aussi de nombreux dysfonctionnements. Sauf que le scénario risque de se reproduire encore aujourd'hui à Kaboul. Les précisions de Sonia Ghezali.
Le dispositif sécuritaire pour les bureaux de vote sera le même que celui mis en place hier. Un premier cordon de sécurité assuré par des policiers armés de Kalachnikov à l'entrée, des soldats postés à plus de 300 mètres, des patrouilles mobiles dans chaque secteur. Les talibans qui ont frappé fort hier vont certainement essayer de s'en prendre encore aux centres électoraux. Le groupe État islamique est l'autre menace que les autorités afghanes doivent prendre en compte. Sur le plan logistique, les bureaux de vote dans lesquels le matériel, notamment biométrique, était défaillant ou absent, seront aujourd'hui prêts à recevoir les électeurs qui sont repartis hier sans avoir pu voter. Il leur faudra beaucoup de courage après la journée qui a été maillée de violences dans tout le pays. 192 incidents, un attentat kamikaze dans le nord de la capitale afghane, des bombes artisanales explosant près des bureaux de vote partout dans le pays, des attaques contre les barrages de police. Les Afghans votent dans un climat de terreur. La commission électorale indépendante qui a présenté ses excuses à la population assure que le personnel, le matériel sera prêt pour les accueillir cette fois-ci. Les failles dans l'organisation auraient pu être évitées, a dit le chef de l'exécutif, Abdullah Abdullah. Ces élections ont été clairement mal préparées, conséquence certainement du retard pris et notamment en raison de problèmes internes à la commission électorale et aux tensions avec les partis politiques. Cela avait été soulevé à de nombreuses reprises par plusieurs observateurs afghans et internationaux qui craignaient un fiasco au vu des difficultés rencontrées dans la préparation du scrutin.
Sonia Ghezali de RFI pour France Culture. Donald Trump va discuter avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman après la mort du journaliste Jamal Khashoggi. Le président américain a également indiqué hier qu'il n'excluait pas de prendre des sanctions contre l'Arabie Saoudite s'il n'obtenait pas de réponse dans cette affaire. Bruxelles, Berlin, Londres, Paris, l'ONU et des ONG appellent à une enquête approfondie. Il y a 10 ans, disparaissait Sœur Emmanuelle. La petite sœur des pauvres allait avoir 100 ans. Elle avait consacré une grande partie de sa vie à venir en aide aux déshérités dans les bidonvilles du Caire, en Égypte et notamment auprès des chiffonniers. 10 ans plus tard, son combat continue. C'est ce qu'a constaté François Hume Ferkataji. Reportage.
Sœur Emmanuelle, professeure de lettres et de philosophie, enseigne en Égypte à Alexandrie une dizaine d'années, de 1965 jusqu'au milieu des années 70. Lorsqu'elle prend sa retraite, la religieuse entreprend de venir en aide aux plus démunis. Dans l'immense mégalopole Kérot, elle découvre le bidonville de Nesbet el Narl et prend conscience de l'extrême pauvreté dans laquelle vivent les habitants, à majorité chrétienne, chargés de collecter, trier et recycler les déchets de la ville. De simples taudis au toit en carton, des rues boueuses, pas d'électricité ni d'eau potable, Sœur Emmanuelle décide de s'installer dans ce quartier pour améliorer les conditions de vie des habitants. Son bras droit de l'époque, Isaac Michael, se souvient de sa volonté à toute épreuve.
Je me rappelle d'une histoire en particulier. Ici, il n'y avait pas d'électricité. Alors elle a décidé d'aller directement voir le ministre de l'électricité qui vit dans un quartier très chic à Zamalek. Il était minuit. Je lui ai dit, mais c'était pas possible, on ne peut pas y aller maintenant. Sœur Emmanuelle a insisté en disant, je veux le voir. Alors j'ai dû l'accompagner à Zamalek. Et puis, on a frappé à sa porte. On nous a répondu, il dort. On a attendu jusqu'au lendemain matin qu'il se réveille. Et le lendemain, elle est allée discuter avec lui et en parlant de l'importance de faire venir l'électricité. Et lui, il a demandé aux responsables des réseaux de l'installer. Et depuis, on a l'électricité ici.
30 ans de combat auprès des chiffonniers, un combat que poursuit aujourd'hui l'association créée par Sœur Emmanuelle Asmae. Asmae participe notamment au financement d'écoles et de centres spécialisés pour la prise en charge d'enfants et d'adolescents en situation de handicap. « Je ne me bats pas seulement contre la pauvreté, je me bats contre l'ignorance », répétait Sœur Emmanuelle. Mais aujourd'hui, Asmae, comme la plupart des organisations qui reçoivent des fonds de l'étranger, redoute la nouvelle loi égyptienne de 2017 qui impose un contrôle étroit et lourd de l'État sur l'activité des ONG.
François Hume Ferkataji au Caire pour France Culture. Retour en France, le temps de ce dimanche. Le soleil brillera encore sur une grande partie du pays avec ce matin des bancs de brouillard par endroits. Attention aussi au Mistral et aux Tramontanes autour de la Méditerranée. Les températures, elles font le grand écart, 2 à 16 degrés du nord au sud, 17 à 27 cet après-midi.